Je poursuis, reprit Durtal, qui ne jugea pas nécessaire de répondre. Quelquefois le vœu de chasteté était joint à celui de l'obéissance, et remarquez que ces vœux étaient, ainsi que ceux des professes, perpétuels. Ceux qui s'en déliaient étaient envisagés tels que des renégats, et pouvaient être contraints par les lois ecclésiastiques de rentrer sous l'obédience de leurs supérieurs. Ce cas s'est produit à l'abbaye de Saint-Sauveur, à Chafous. Dudon, un oblat, celui-là vivait dans l'intérieur de la maison, rejeta un beau jour l'oblature, reprit ses biens et quitta le cloître. L'abbé en appela au pape Urbain II, qui menaça Dudon de le retrancher de la communion des fidèles, s'il ne rétractait pas son apostasie et son sacrilège. Un synode fut réuni sur les ordres de sa sainteté à Constance pour juger le coupable, qui fut condamné à réintégrer l'abbaye, à restituer sans esprit de retour ses biens, et il dut en su accomplir la punition que lui infligea pour son crime le père abbé. On n'y allait pas de main morte en ce temps-là. Oui, je sais que les oblats étaient considérés comme personnes ecclésiastiques par le droit canon et qu'ils étaient dotés du privilège de l'exemption de l'ordinaire, dit M. Lempre. Et la liturgie de la prise d'habit et de la profession, avez-vous enfin déterré des renseignements sur elle? Pas encore. Il résulte cependant du texte de Mitarelli que, chez les Camaldules, les professions des oblats étaient souvent identiques à celles des moines, avec cette différence, néanmoins, que l'Église ne les reconnaissait pas solennelles et indissolubles. Ajoutons, pour achever ce déballage un tantinet incohérent de notes, que les oblats pouvaient être célibataires ou mariés, laïcs ou prêtres, que les oblats pouvaient dépendre d'un couvent de femmes et les oblates d'un couvent d'hommes. Là, les informations abondent. Pour indiquer une source, vous lirez dans les annales de Mabillon qu'un certain nombre d'oblats avaient fait à l'abbesse de Sainte-Félicité à Florence promesse d'obéissance, de conversion des mœurs et de continence. Il ressort de tout cela, monsieur mon frère, que c'était chose fort sérieuse que l'oblature au Moyen-Âge. Mais oui, et les papes la tenaient en haute estime. Tenez, écoutez cette phrase d'une bulle d'Urbain II adressée à l'abbé d'Irschau. L'oblature ne mérite que des éloges et est digne d'être perpétuée par la raison qu'elle est une reproduction de l'état primitif de l'Église. Nous l'approuvons donc. Nous l'appelons un institut saint et catholique et nous la confirmons. Sa sainteté Léon XIII n'a donc fait que répéter les éloges de son prédécesseur du XIe siècle, lorsqu'il a, dans un bref rendu, le 17 juin 1898, sur la demande de Don Hildebrand de Hamptin, abbé de Saint-Anselme à Rome, et primat de l'ordre de Saint-Benoît, prôné l'établissement des oblats bénédictins et déclaré qu'il fallait l'aider et le propager. Tels sont les documents que je possède sur la classe des oblats de l'extérieur. J'ai vidé mon sac, mademoiselle ma sœur. Ne m'en demandez pas plus. Mais si, parlez-moi plus spécialement des oblates. Vous pouvez bien penser que c'est à elles surtout que je m'intéresse. Vous en savez autant que moi, puisque, je vous l'ai dit, aucune différence n'a existé d'entre elles et les oblats de l'autre sexe. Allons, vous avez de la chance, poursuivit Durtal, qui fouillait en lui répondant dans ses papiers. Voici des extraits qui les concernent et que j'ai copiés à la bibliothèque de l'abbaye, dans les annales de Mabillon. Dès le 7e siècle, on trouve ses affiliés près des Cénobies, mais c'est surtout au 10e siècle qu'elles abondent, à Saint-Alban, à Saint-Gall surtout. Au 11e, elles s'attachent au monastère de la Souabe, et en France, elles foisonnent. À Flavigny, la mère de Guibert, abbé de Nogent, se retira dans une cellule construite près de l'église. À Verdun, la mère de saint Popon de Stavelot et la bienheureuse Adelwine vinrent se fixer auprès du couvent de Saint-Vannes. Saint-Iltrude résida près de l'abbaye de Liécy, dont son frère Gondrade était l'abbé. Les deux sœurs de Saint-Guillaume habitèrent auprès de son monastère de Gélone. Les chroniques de Saint-Gall nous ont conservé les noms de Viborade, de Richild, de Wildegarde. Sainte Viborade, la plus connue, se réfugia près de l'abbaye où son frère Iton s'était fait moine. Elle apprenait le psautier, reliait les manuscrits et tissait les étoffes des belles amies et des robes. La mère du bienheureux Jean de Gorce, le réformateur des cloîtres de Lorraine, fut admise à loger dans un bâtiment contigu à la clôture dans laquelle était interné son fils. Elle recevait le vivre des religieux et s'occupait, de son côté, de coudre et de réparer les vêtures. La plupart d'entre elles étaient oblates et recluses à la fois. Et si vous voulez mon avis, eh bien pour moi, plus j'y réfléchis et plus je suis convaincue que la première forme de l'oblature a été la réclusion. Et ici, je suis en mesure de vous citer sans arrêt des noms. Walburg, qui, avant d'avoir été abbesse à Juvigny, avait été l'une des oblates recluses de Verdun. Sibline, qui demeurait dans les mêmes conditions près de l'acétère de Saint-Faron de Meaux, et Audierna, près de Saint-Arnoux, à Metz. Mais la litanie de ces pieuses femmes, bénédictines ou séquestrées, serait dépourvue de profit. Il est en effet fort difficile, dit M. Lempre, de discerner celles des oblates qui furent recluses de celles qui ne le furent point. Pour la majeure partie, c'est impossible. Cependant, d'autres ne peuvent certainement figurer au nombre des prisonnières. Par exemple, Agnès, l'impératrice d'Allemagne au XIe siècle, qui fit oblation au monastère de Fructuaria. Elle y passait ses journées dans la prière, confectionnait des habits pour les pauvres, soignait les malades et les visitait fréquemment. Puisqu'elle quittait son couvent pour remplir ses œuvres de miséricorde, elle n'était pas recluse. En général, les oblates, qui étaient souvent des mères ou des sœurs de religieux, désirant vivre auprès de leurs fils ou de leurs frères, lavaient et reprisaient le linge de la communauté, brodaient des ornements sacerdotaux, fabriquaient des hosties, et d'aucune pansaient les infirmes des environs. Elles se couvraient d'habitude de la robe monacale et d'un voile noir. Autre note, continua Durtal, est toujours extraite de Mabillon. À Fontenelle, lors de l'invention du corps de Saint Vulfran, les bénédictins confièrent la garde de ces reliques à une dame qui avait renoncé au monde et revêtu un habit religieux. Savez-vous que c'est flatteur pour nous de compter parmi nos ancêtres une impératrice d'Allemagne ? Dit en souriant Mademoiselle de Garambois. Oh, elle n'a pas été la seule. Elle a eu pour frère oblat de nombreux monarques. Louis le Débonnaire fut oblat de Saint-Denis. Le roi Lothaire de Saint-Martin de Metz, Garcia, roi d'Aragon, de Saint-Sauveur de l'Air, le roi des Germains Conrad, de Saint-Gall, Alphonse, souverain de Castille, de Sahaguin, le roi de France Louis le Jeune, du monastère du Christ de Cantorbéry, le roi Saint-Henri, votre patron, de Saint-Vannes, de Verdun. C'était sans doute plus honorifique que réel, remarqua M. Lempre. C'est possible, mais il n'en demeure pas moins acquis que l'oblature fut assez bien fréquentée. Du coup, c'est clos, la séance est levée, je réemballe mes notes. Eh bien, et sainte Françoise Romaine, notre patronne que vous avez oubliée? Tiens, c'est vrai, elle fut une grande sainte et une admirable visionnaire. Mais son œuvre, rattachée à la branche des Olivetins, est un peu spéciale et n'a plus qu'un rapport déjà lointain avec les oblats vivant autour et dans l'intérieur d'un cloître. Ces oblates, à elles, furent de véritables religieuses, menant la vie conventuelle et formant un ordre à part, voué au traitement des grabataires. Vous en connaissez les règles, elles sont encore suivies par les moniales de la tour des miroirs, qui se sont perpétuées à Rome depuis sa mort. 4 carêmes par an, hors ce temps, 3 jours de la semaine, mais seulement au dîner, permission d'user d'aliments gras. Jeûne les vendredis et samedis, 6 heures de sommeil en tout, elles ne sont pas cloîtrées et peuvent sortir pour distribuer des secours aux nécessiteux et aux alités, mais c'est toujours en voiture fermée. Elles ont conservé le vêtement des veuves tel qu'il était au temps de la sainte. Elles pratiquent l'office divin et travaillent en cellule. Mais j'y pense, pourquoi, amoureuse comme vous l'êtes de l'oblature, n'êtes-vous pas entrée dans ce couvent où, si vous en jugiez le climat de l'Italie hostile, ne vous êtes-vous pas établie religieuse en France, où une congrégation similaire existe à Angers et à Paris, les servantes des pauvres, oblates régulières de saint Thomas. Merci, moi, je suis de la communauté de Solesmes. Je n'ai rien à démêler avec ces ramilles hantées sur le tronc de Saint-Benoît. Ce ne sont pas des bénédictines proprement dites. Bah! Je vous fais compliment, ma nièce, fit ironiquement M. Lampre. Vous êtes une digne fille de l'agrégation de France. Hors d'elle, point de salut. Ne sont bénédictins que ceux qui relèvent de Solesmes. Évidemment. Eh bien, et les bénédictins de Jouarre, qui ont restauré une abbaye d'une certaine célébrité et d'une certaine ancienneté, je pense, ce ne sont pas des bénédictines? Elles sont indépendantes, tiennent des classes, chantent mal l'office, ne sont pas dirigées par des pères bénédictins. Ce n'est point cela. Et le prieuré des bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Monsieur à Paris? Ce sont des sacramentines. Mais saperlope, s'exclama M. Lampre, elles observent plus exactement la règle de Saint-Benoît que vos jeunes bénédictines. Elles ont le service de nuit, le maigre plus fréquent, et elles chantent le plein chant, d'après la méthode de Don Potier. Que voulez-vous de plus? Rien, sinon que l'office divin n'est pas leur unique fonction. Tout est là. Voilà, dit M. Lampre, s'adressant à Durtal, voilà les idées que ma nièce a rapportées de son séjour auprès des cloîtres. Durtal riait de cette dispute entre l'oncle et la nièce. Ce n'était pas d'ailleurs la première à laquelle il assistait. Toutes les fois qu'il s'agissait de l'ordre de Saint-Benoît, les querelles commençaient entre ces deux êtres, chacun finissant par exagérer ses opinions pour exaspérer l'autre. La vérité était que Mademoiselle de Garambois rééditait, en les prenant au sérieux, les théories du père Titourne, ce toquet dont tout le monde se gaussait au Val des Saints. De bonne foi, elle et lui s'imaginaient rehausser le prestige de la congrégation de France en rabaissant les autres. Avec ce système-là, s'écria M. Lampre, l'on en arriverait à refuser le droit d'endosser la coule noire aux bénédictins de la pierre qui vire, qui ont été fondés, eux, par un saint. Et cependant, les fils du père Muard, rattachés à la congrégation du Mont Cassin, suivent la primitive observance, s'éveillent dans la nuit pour les matines et les laudes, pratiquent l'abstinence par tous les temps. Leur régime est à peu près aussi dur que celui des Trappes. Et, en outre de l'office divin, ils prêchent, ils défrichent les âmes dans le Nouveau Monde. Ils sont, en un mot, les plus fidèles disciples de saint Benoît. N'est-ce pas vrai? Oui, répondit Durtal, mais je vous avoue que, personnellement, l'idéal surélevé de Don Guéranger m'enchante. Je ne vois pas l'utilité pour les bénédictins de prêcher et d'enseigner. Il y a des ordres particuliers dont c'est la tâche. D'autre part, des ordres pénitentiels figurent dans la lignée même de saint Benoît. Les moines noirs n'ont donc pas à faire double emploi avec eux. Don Guéranger a limité leur mission et précisé leur but. Il les a marqués d'une empreinte originale en les différenciant justement d'avec les autres instituts. Sa conception de l'opus Dei, des messes, des heures canoniales exécutées avec art, célébrées en grande pompe, cette idée du luxe pour Dieu est, selon moi, très belle. Il siérait que les moines, chargés de la réaliser, fussent en même temps des artistes, des savants et des saints. C'est beaucoup demandé, je le sais, mais enfin, en tenant même compte du déchet, l'œuvre n'en est pas moins magnifique. Voilà donc, s'écria Mademoiselle de Garambois, quelqu'un qui rend justice à Don Guéranger. On juge l'arbre par ses produits, répliqua M. Lampre. Qu'est-ce que la congrégation de France a donné? Comment ce qu'elle a donné? Mais vous n'ignorez pas plus que moi. Faut-il donc répéter que Don Guéranger a restauré les études liturgiques, Don Potier le plein chant et Don Pitra la symbolique, en réunissant son spicilège qui forme des volumes précieux pour quiconque veut comprendre l'âme et l'art du Moyen-Âge? Enfin, il existe du père Lebanier une traduction en un vieux français vraiment exquis des méditations de saint Bonaventure. C'est aussi fort, dans son genre, que les contes drôlatiques de Balzac. Et maintenant ? Maintenant, dame, je ne suppose pas pourtant que l'ordre soit à bout de sang. En tout cas, il peut revendiquer un maître livre, le traité de l'oraison de Madame l'abbesse de Sainte-Cécile. Rappelez-vous, entre autres inoubliables pages, celle où elle explique les degrés de la vie mystique par les phrases du pater prises à rebours, c'est-à-dire en commençant par la dernière pour finir par la première. Un autre volume très bien renseigné, très lucide et, qui plus est, écrit dans une langue musclée, toute moderne, le livre de la prière antique, par Don Cabrol, prieur de Farnborough, est à citer aussi. Eh bien, mais il me semble que c'est déjà quelque chose. Mon cher, désirez-vous connaître mon opinion ? Eh bien, vous et ma nièce, vous n'êtes pas au fond des bénédictins, vous êtes des guérangistes. Tiens, voilà qu'on se dispute sur notre dos, dit le père Feltin qui entra. Asseyez-vous, père. Et j'apportai le café, fit madame Bavoil. Vrai, reprit-elle, s'adressant au moine, vous arrivez à temps. J'entends de ma cuisine ce que l'on peut appeler un chinage de vos frocs. Voyons de quoi monsieur Lempre nous accuse-t-il encore. De tout, répondit mademoiselle de Garambois. Il vous reproche de ne pas fournir de fruits, d'être dévoré par la superbe en vous croyant les seuls bénédictins du monde. Il se plaint enfin que vous ne suiviez pas les règles du patriarche. C'est bien des griefs à la fois. Les fruits ? Mais l'arbre ne fut point stérile, je pense. Vous n'avez qu'à ouvrir, pour vous en assurer, la bibliographie des bénédictins de la Congrégation de France, éditée par Don Cabrol. En histoire, vous trouverez les doctes et les patients ouvrages de Don Chamard et de Don Fauneuve. En hagiographie, des vies de Sainte Cécile, de Sainte Hugues de Cluny, de Sainte Françoise Romaine, de Sainte Scolastique, de Saint Josaphat. Dans le monasticum, les moines d'Orient de Don Bess. Dans la liturgie, les savants articles de Don Plaine. Dans la paléographie musicale, les travaux de Don Maucreux et de Don Cajun. Dans la symbolique, les magistrales études de Don Langeais. Oui, celle-là je les connais, dit Durtal. Ces travaux, sur le sens allégorique des Écritures, sont en effet médulaires et saisissants. Malheureusement, ils sont épars en des brochures et des tirés à part de revues. Aucun éditeur, pas même les cloîtres qui disposent d'une imprimerie, tels que Solem et les Gugés, n'ont eu le courage de les réunir, et ce serait pourtant autrement glorieux pour la renommée de l'ordre que ces vies de saints dont vous parlez. La superbe, reprit le père Feltin, ne la confondez-vous pas avec l'esprit de corps qui est une fierté mal placée, injuste quelquefois, mais qui est issue de la solidarité de gens vivant ensemble, enfermés, et dont le champ de vision est fatalement restreint. Dans l'armée, le dragon s'estime supérieur au cavalier du train, et le tringlot, parce qu'il monte à cheval, se juge fort au-dessus du fantassin. C'est inévitable. Il faut, pour se faire aimer, l'état sur lequel on dirige des néophytes, les persuader qu'il est le plus beau et le meilleur de tous. Ce n'est pas bien méchant, en somme. Non, et c'est inéluctable, dit Durtal. Il y a dans les ordres, quels qu'ils soient, un microscope spécial qui change les fétus en poutres. Un mot, un geste insignifiant, sans porter autre part, prend des proportions inquiétantes dans un cloître. On rumine sur les actes les plus simples pour y loger des dessous. La critique la plus bénigne, la plaisanterie la plus inoffensive deviennent des attentats. Par contre, il suffit qu'un religieux produise une œuvre quelconque pour qu'aussitôt la gloire du clocher naisse. Il y a le grand homme du monastère, de même qu'il y a le grand homme de province. C'est puéril et c'est touchant. Mais, vous le dites très bien, cela dérive de l'esprit de corps et d'une existence rétrécie et mal renseignée sur les alentours. Quant à ne pas suivre les préceptes de saint Benoît, poursuivit le moine qui sourit à la remarque de Durtal, cela est plus grave. En quoi, mon cher monsieur Lempre, ne les suivons-nous pas ? C'est pourtant clair. La règle de Saint-Benoît, ainsi que la plupart des règles des autres instituts d'ailleurs, se compose surtout d'avis généraux et de conseils. Les points, en dehors des prescriptions liturgiques qu'elle précise comme devant être strictement observés, sont plutôt rares. Or, ce sont ceux-là dont vous vous souciez guère. Ainsi, les moines doivent coucher tout habillés et en dortoir. Ils doivent réciter matine avant l'aube. Ils doivent, sauf les malades et les infirmes, s'abstenir de la chair des quadrupèdes par tous les temps. Et vous couchez déshabillés et en cellule, vous récitez l'office après l'aurore et vous mangez de la viande. « De quadrupèdes !» s'écria mademoiselle de Garambois. « Mais alors, la volaille qui n'a que deux pattes est permise !»« Il y a belle lurette, » dit Don Feltin en souriant, « que des accusations de ce genre ont été lancées contre nous. Sans parler de la querelle de Saint Bernard et de Pierre le Vénérable à ce sujet. Rappelez-vous que dans sa dissertation pour prouver que l'émine de vin accordée par jour aux moines était de 2/2 sétier, Don Claude Lancelot, l'un des solitaires de Port-Royal, reprochait déjà aux bénédictins du XVIIe siècle de tricher sur les heures des repas, ce que nous faisons nous aussi en carême, et il déclare que l'on ne doit manger qu'après l'heure de vêpres, c'est-à-dire le soir. Or, les trappistes, si rigoureux pour eux-mêmes, ne peuvent plus supporter cette abstinence. Il est en effet impossible de se tenir debout de 2 heures du matin, comme eux, ou même de 4 heures, comme nous, sans prendre aucune collation jusqu'à 4 heures du soir. La tête tourne et les détraquements d'estomac et les névralgies sévissent. Il a bien été nécessaire, dès lors, de frauder et de situer en carême les vêpres avant midi, c'est-à-dire avant l'heure du repas. Et croyez bien que, malgré cet adoucissement, je dispense encore la plupart de mes novices du jeûne jusqu'à midi. Je leur concède le matin le frustulum. Ne fût-il que d'une goutte de café noir et d'une miette de pain, il suffit pour empêcher les vertiges et les migraines. Vous ne vous doutez pas combien, dans une existence privée d'exercice, la santé se débilite surtout lorsque la nourriture est peu succulente, privée de viande saignante et alourdie par l'abus des farineux. À la fin du carême, où le pain même est mesuré et où personne ne mange à sa faim, les caractères sont changés. Tout le monde s'impatiente et s'énerve. L'on pêche contre la charité à mesure que les austérités s'accroissent. Est-ce enviable ? Le rosbif lénifie l'âme et le poison l'irrite, dit Durtal en riant. Hélas, nous avons des corps débilités de père en fils maintenant, et leurs infirmités se répercutent sur le moral. C'est une humiliation que le Seigneur nous inflige. Il est donc prudent de ne point la négliger. Sinon alors, il n'y a plus qu'à renvoyer les meilleurs de nos sujets parce qu'ils ne peuvent résister au jeûne ou à muer le monastère en hôpital. Et puis, vous vous imaginez que les bénédictins se nourrissent constamment de viande, et c'est absolument faux. La vérité est que nous nous usons d'aliments gras plusieurs fois la semaine, sauf en carême et en avant. Ajoutez à ces 2 saisons où nous sommes voués aux maigres, les 4 temps, les vigiles, la semaine sainte, d'autres fêtes, et vous constaterez que nous pratiquons l'abstinence les 2/3 de l'année et endurons au moins 100 de jeûnes. En tout cas, ces atermoiements que voulut l'Église, qui a également desserré les observances des fidèles, sont prévus par notre règle et amplement justifiés par l'affaiblissement des constitutions et par une vie sédentaire d'études qu'il serait impossible de mener avec un nutriment de légumes et d'eau. Remarquez aussi que si je suis très large pour ceux de mes novices dont le tempérament est délicat, je le suis beaucoup moins pour les autres. Je laisse parfaitement le frère de Chambéon, ce trabucaire du bon Dieu, qui est doué d'une complexion de fer, jeûner tant qu'il veut et éclabousser de sang les murs de sa cellule tant il se frappe. Il n'en est pas moins joyeux et dispos, c'est parfait. Mais ce genre d'opération, je l'interdirai toujours aux autres, tant qu'il ne me sera pas démontré qu'il le supirait sans dame. C'est le vendredi que vous vous fustigez en récitant le miséréré avec la discipline ? Oui, et le mercredi aussi, dans les temps de pénitence. et chacun est maître d'endosser le cilice si sa santé le tolère. Nous ne sommes donc pas aussi exemptes de macération que paraît le croire M. Lempre. Quant au système des cellules remplaçant les dortoirs dont parle la règle, il n'a nullement été innové par Don Guéranger. Il existait déjà au XVe siècle dans les congrégations de Sainte Justine et de Valladolid, et il s'est continué jusqu'à nos jours. Le dortoir présente d'ailleurs plus d'inconvénients que d'avantages, et il en est de même du coucher tout habillé. Les moines sont libres d'agir à ce point de vue comme bon leur semble. Cependant, pour ceux qui sont peu soigneux de leur personne, la malpropreté qui résulte du non-déshabillage permet de désirer qu'on le proscrive. Enfin, vous voudrez bien observer qu'en ce qui concerne le changement d'heure des matines, il consiste en une simple transposition de l'horaire et que nous n'y gagnons pas une minute de repos de plus. Ceux qui se lèvent à 2 heures de la nuit, ainsi que les cisterciens, se couchent à 7 heures en hiver et à 8 en été, mais alors ils ont une heure de sieste après midi. Nous ne nous couchons guère avant 9 heures, et nous sommes debout à 4. Comptez, et vous découvrirez que le sommeil est de 7 heures, et qu'il est le même pour les uns et pour les autres. Et puis, voyez-vous, pour juger équitablement la congrégation de Solesmes, il convient de se référer à ses origines. Don Guéranger, qui la fonda, mourut à la peine, après s'être débattu toute sa vie dans des questions d'argent. Et il fallait avoir la robuste et gaie de ce moine pour ne jamais désespérer et poursuivre quand même son œuvre. Eh bien, quand il décéda, il n'était pas encore parvenu à façonner des religieux tels qu'il les concevait. Il ne réalisa son rêve qu'à l'abbaye démoniale de Sainte-Cécile, et ce, grâce à Madame l'abbesse qu'il avait formée. Il trépassa, et son successeur, Don Couturier, fut un homme excellent, mais qui n'avait point l'empant du grand abbé, et les expulsions survinrent. Les bénédictins vécurent dans le village, sans clôture, sans moule claustrale possible. Don Couturier disparut à son tour, et, de par l'énergie et l'intelligence du nouvel abbé, dont Delatte, les moines, rentrés dans leur monastère, reprirent un train de vie monastique. Notez en conséquence les chaos des débuts, la situation des novices devenus professes, après une existence dispersée aux quatre coins d'un bourg, et avouez qu'après de telles épreuves, la congrégation de France ne s'en est tout de même pas trop mal tirée. Il y eut un silence. Pardon de changer le thème de la conversation, reprit le père Feltin qui était devenu soudain grave, mais vous m'avez troublé avec toutes vos discussions, et j'oubliais que j'ai de fâcheuses nouvelles à vous annoncer.
De fâcheuses nouvelles ?
Oui, d'abord le père Philigone Minet a été frappé d'une attaque ce matin. Le médecin de Dijon est venu. Il assure qu'il en réchappera, mais que la tête, qui n'est déjà pas bien solide, y restera.
Oh, le pauvre homme !
Ensuite, le bruit court, et il est malheureusement sérieux, que le gouvernement va nous supprimer la cure du Val des Saints.
Il va nommer un curé ici ?
Oui. Mais, s'écria M. Lempre, l'église qui est à la fois abbatiale et paroissiale devra donc être scindée en deux, celle du curé, celle des moines. C'est absurde.
Hélas !
Et le père abbé, que pense-t-il de cela ? Demanda Durtal.
Il est fort attristé, mais que voulez-vous qu'il fasse ? Il ne peut lutter contre la direction des cultes et contre l'évêque.
Ah ! L'évêque est là-dedans. C'est-à-dire que, lui, subit aussi la volonté du gouvernement. Il n'aurait pas accompli ce changement de lui-même. Il a la main forcée. C'est du reste un homme âgé et infirme, et qui ne veut pas d'ennui.
Vous savez, à propos, lança M. Lempre, le joli tour dont il fut victime, alors qu'il était encore grand vicaire dans une autre ville ?
Non. Un prêtre qui, à tort ou à raison, lui en voulait, et l'accusait d'avoir trahi la cause des ordres religieux près du préfet, fit passer dans les journaux, qui n'y virent que du feu, un écho que reproduisit à son tour la presse de province, relatant que M. le vicaire général Trioro venait d'être nommé évêque in partibus d'Aceldama.
« Le chant du traître, celui où Judas se pendit ! » s'écria Mademoiselle de Garambois. Le comique est qu'il reçut de nombreuses visites et de nombreuses cartes le félicitant de son élévation à l'épiscopat. Il faillit en crever de rage. « Il n'y a que la haine sacerdotale pour effectuer de pareilles trouvailles, » dit Durtal. « Enfin, » reprit le moine, « voilà la nouvelle. Elle est, vous le voyez, pénible. Quel sera le modus vivendi établi entre le curé et les bénédictins? Je l'ignore. Quel sera le nouveau titulaire du Val des Saints? Je n'en sais pas davantage. La seule chose qui soit sûre, c'est que la nomination ne tardera pas. « Père, » dit Mademoiselle Bavoil qui venait de rentrer dans la salle à manger, « est-ce que les paysans ne vont pas protester et défendre leurs moines ?» Le père Feltin se mit à rire. « Écoutez ceci, Madame Bavoil. Ici, le père curé ne touche aucun traitement du gouvernement. C'est donc une économie pour les contribuables. Et, d'autre part, il ne peut, notre règle l'interdit, profiter du casuel auquel tout curé a droit. Donc, on enterre et on marie les pauvres gratis pro deo, et l'argent touché des obsèques et des noces des gens qui eurent le moyen de payer est mis de côté pour acheter du bois que l'on distribue, dès que l'hiver approche, aux indigents. Le paysan est donc privilégié dans ce village. Eh bien, il est si bête, si hostile aux religieux, qu'il sera enchanté de leur voir enlever la cure. Pourquoi? Il ne s'en doute même pas. Ce ne sera que plus tard, alors qu'il s'apercevra que ce changement atteint sa bourse, qu'il comprendra la bêtise de sa joie. Quant aux hobereaux, c'est pour eux un triomphe. Ils auront enfin un curé à eux. Mais j'aime à croire que tant que nous serons là, l'on interdira au baron des entours et à sa famille de chanter de la musique profane dans notre église. « C'est à voir, » s'exclama Durtal. « Allons, une goutte de chartreuse, mademoiselle ma sœur. Comment vous refusez ? Vous êtes féroce. Je pleure en buvant mon petit verre, tant c'est fort. » Et elle accompagna cette plainte d'un sourire angélique, tout en achevant de laper la dernière larme. « Nous traversons pour l'instant une période d'ennui, » reprit le père Feltin, qui restait songeur. « Qu'y a-t-il encore ? Il y a, que j'ai bien peur d'être obligé de renvoyer le plus intelligent de mes novices. » Le frère Sourche. Pourquoi ? À cause de ses idées, hélas. Ce garçon est compréhensif et érudit, et il est aussi obéissant et pieux. Il a toutes les qualités. Mais il rayonne autour de lui l'agitation. Il m'effraie à certains moments, alors que je le vois courir, soufflant comme une machine dans les corridors. C'est une nature exubérante et capable d'éclater si on la comprime. J'ai peur en le gardant qu'il ne devienne fou. D'autre part, expliquer cela, sa piété très réelle s'accorde avec un scepticisme qui déconcerte. Il est rationaliste dans les moelles. Il est de ces gens qui s'attellent sur un texte avec l'idée que l'on n'est pas savant si l'on n'arrive pas à démontrer que ce texte est faux. Et il nie aussitôt qu'il y découvre des actes qui dépassent sa raison. Quand il est arrivé ici, il était plein de lectures de Monseigneur Duchesne. Il citait à tout propos l'histoire de Saint Bernard et de l'abbé Vacandard. Il lui a soustrait plusieurs miracles. S'écriait-il avec admiration. Nous avons essayé de réagir, mais en pure perte. Or, ce novice trouble les autres avec ses aperçus équivoques et ses marchandages de l'au-delà. Et j'estime que, dans l'intérêt même du noviciat, il serait dangereux de le conserver. Malheureusement, il est sans position, sans fortune, et il serait cruel de le congédier sans avoir d'abord assuré son avenir. Il est décidé à ne pas rentrer dans le monde et persiste à vouloir devenir prêtre. Nous allons donc tâcher d'obtenir son admission dans un séminaire. Peut-être ses nouveaux maîtres réussiront-ils mieux que nous à le sauver de lui-même. Mais, dit Durtal, il ne déparera pas du tout le personnel des séminaires, car vous n'ignorez point, et c'est là le péril de l'heure actuelle, les plus intelligents des élèves sont tous des rationalistes. Hélas, fit le père Feltin. Cette nouvelle génération, poursuivit Durtal, entend la foi à sa manière. Elle en accepte et elle en refuse. Elle n'a plus confiance dans les leçons de ses maîtres. Ces jeunes gens sont de ceux qui prennent les lanternes pour des vessies. Le respect humain, l'orgueil, le désir de ne pas paraître plus crédible que les impies, les détraquent. tous ces gaillards-là ont lu Renan. Ils rêvent d'une religion sensée, raisonnable, ne choquant pas le bon sens du bourgeois par des miracles. Ne pouvant nier ceux des évangiles, car alors ils ne seraient plus catholiques, ils se rejettent sur ceux des saints, et ils retournent, ils torturent, ils forcent les textes afin de tâcher de prouver que les témoins oculaires et que les écrivains qui les narrent avaient tous la berlue ou étaient tous des imposteurs. Ah, ça nous prépare un joli clergé. Et ce qui est étrange et qui sera la caractéristique de notre époque, c'est ceci. Un mouvement mystique se dessine actuellement chez les laïcs et le mouvement inverse se produit chez les prêtres. Eux font à reculons le pas que nous, nous faisons en avant. Les rôles sont renversés. Il finira par n'y avoir aucune entente possible entre les pasteurs et les ouailles. Et ce mouvement gagnera les cloîtres, ajouta M. Lempre. Le frère Sourche n'est pas, croyez-le bien, un isolé. Celui-là est franc et se découvre. D'autres plus prudents tairont ses idées jusqu'à ce qu'ils se sentent en nombre pour oser les exprimer. Un jour viendra où, pour manifester un esprit large et paraître érudit, un mauvais moine renchérira sur le système de démolissage de la nouvelle école. Nous avons déjà les partisans de la très libre exégèse, les abbés démocrates. Nous finirons bien par avoir les frocards protestants. Que Dieu nous en préserve, dit Don Feltin. Un clergé et des religieux sans mystique, quel troupeau d'âmes mortes, s'écria Durtal. Les moines ne seront plus alors que les conservateurs du musée des vieilles traditions et des vieilles formules, et les prêtres que les commis de l'intendance céleste, que les employés préposés au bureau des sacrements. Nous n'en sommes heureusement pas encore là, dit le père Feltin en se levant de table, mais c'est égal, je ne puis m'empêcher de trembler quand j'envisage l'avenir. Qui sait ce que le Seigneur nous prépare? Et si la loi sur les associations ne passera pas? Oh! Et le maître des novices eut un geste d'incrédulité en les quittant. Croyez-vous que ceux-là seront pris au dépourvu quand le Parlement votera cette loi? Dit Durtal. Les bénédictins, clama M. Lempre, ils s'imaginent que la France les connaît et seraient désolés de les voir partir. Quelle illusion! S'ils se doutaient combien ce malheureux pays qui les ignore se fiche qu'ils demeurent ou fuient, ils en béeraient.